Jules Barbin de Révilly, une histoire sans nom. Dans les dernières années du XVIIIe siècle qui précédèrent la Révolution française, au pied des Cévennes, dans une petite bourgade du Forez, un capuchin prêchait entre vêpres et complies. On était au premier dimanche du carême. Le jour s'en venait bas dans l'église, assombri encore par l'ombre des montagnes qui entourent et même étreignent cette singulière bourgade, et qui, en s'élevant brusquement au pied de ces dernières maisons, semblent les parois d'un calice au fond duquel elle aurait été déposée. À ce détail original, on aura peut-être reconnu. Ces montagnes dessinaient un cône renversé. On descendait dans cette petite bourgade par un chemin à pipe, quoique circulaire, qui se tordait comme un tire-bouchon sur lui-même et formait au-dessus d'elle comme plusieurs balcons suspendus à divers étages. Ceux qui vivaient dans cet abîme devaient certainement éprouver quelque chose de la sensation angoissée d'une pauvre mouche tombée dans la profondeur, immense pour elle d'un verre vide, et qui, les ailes mouillées, ne peut plus sortir de ce gouffre de cristal. Rien n'est plus triste que cette bourgade, malgré le vert d'émeraude de sa ceinture de montagnes boisées et les eaux courantes qui en ruissellent de toutes parts, charriant des masses de truites dans leur bouillon d'argent. Il y en a tant qu'on pourrait les prendre avec la main. La Providence a voulu que, pour les raisons les plus hautes, l'homme aimât la terre où il est né, comme même il aime sa mère, fût-elle indigne de son amour. Sans cela, on ne comprendrait guère que des hommes à large poitrine, ayant besoin de dilatation au grand air, d'horizon et d'espace, puissent rester claquemurés dans cet étroit ovale de montagne qui semble se marcher sur les pieds tant elles sont pressées les unes contre les autres. Sans monter plus haut pour respirer, et l'on pense involontairement aux mineurs qui vivent sous la terre, ou à ces anciens captifs des cloîtres qui priaient pendant des années, engloutis dans de ténébreuses oubliettes. Pour mon compte, j'ai vécu là 28 jours à l'état de titan écrasé, sous la pression physiquement pesante de ces insupportables montagnes. Et quand j'y pense, il me semble que j'en sens toujours le poids sur mon cœur. Noir déjà par le fait du temps, car les maisons y sont anciennes, cette bourgade qu'on dirait un dessin à l'encre de Chine et où la féodalité a laissé quelques ruines, se noircit encore, noir sur noir, de l'ombre perpendiculaire des monts qui l'enveloppent, comme des murs de forteresse que le soleil n'escalade jamais. Ils sont trop escarpés pour qu'ils puissent passer par-dessus et lancer dans le trou qu'ils font un bout de rayon. Quelquefois, à midi, il n'y fait même pas jour. Byron aurait écrit à sa Darkness, Rembrandt y aurait mis ses clairs obscurs, ou plutôt, il les y aurait trouvés. L'été, quand le jour est beau, les habitants, sans doute peut-être, en regardant la lucarne bleue qu'ils ont à 1000 pieds au-dessus de leur tête. Mais ce jour-là, la lucarne n'avait pas de bleu. Elle était grise, les nuages appesantis la fermaient comme un cercle de fer. La bouteille avait son bouchon. En ce moment, toute la population de la bourgade était à l'église. Une église austère du XIIIe siècle, où des yeux de lynx, s'il y en avait eu, n'auraient pas pu lire leur vêpre dans ce chien et loup d'un soir d'hiver, mais où il y avait encore plus de loup que de chien. Les cierges, selon l'usage, avaient été éteints au commencement du sermon, et la foule, pressée comme des tuiles sur les toits, n'était pas plus visible au prédicateur que lui, détaché d'elle et plus élevé qu'elle dans sa chair, ne lui était visible de là-haut. Seulement, si on ne le voyait pas très bien, on l'entendait. Les capucins ne nazis qu'au cœur, disait l'ancien proverbe. La voix de celui-ci était vibrante et d'un timbre fait pour annoncer les vérités les plus terribles de la religion. Et ce jour-là, il les annonçait. Il prêchait sur l'enfer. Tout dans cette église sévère de style et où la nuit entrait lentement, vague par vague, plus profonde de minute en minute, tout donnait un très grand caractère à la parole de ce prédicateur. Les statues des saints, alors voilées sous les draperies dont on les couvre pendant la carême, ressemblaient à de mystérieux et blancs fantômes, immobiles, le long de leurs murs blancs, et le prédicateur, dont la silhouette indistincte s'agitait sur le blanc pilier contre lequel la chair était adossée, en semblait un autre. On eût dit un fantôme prêchant des fantômes. Même cette voix tonnante d'une si puissante réalité et qui semblait n'appartenir à personne, en paraissait d'autant plus la voix du ciel. L'impression de tout cela saisissait, et l'attention était si profonde et le silence si grand que quand le prédicateur se taisait un instant pour reprendre haleine, on entendait du dehors, dans l'église, le petit bruit des sources qui filtraient de partout le long des montagnes dans ce pays plein de soupirs et qui ajoutait à la mélancolie de ses ombres la mélancolie de ses eaux. Assurément, l'éloquence de l'homme qui parlait à cette heure-là dans cette église tenait aux choses ambiantes que je viens de décrire. Mais sait-on jamais bien où est l'éloquence ? En l'écoutant, toutes les têtes étaient penchées sur les poitrines, toutes les oreilles étaient tendues vers cette voix qui planait comme la foudre sous ses voûtes émues. Deux de ces têtes seulement, au lieu d'être penchées, se relevaient un peu vers le prédicateur, perdu dans la pénombre, et faisaient d'incroyables efforts pour le voir. C'étaient les têtes de deux femmes, la mère et la fille, qui devaient avoir le prédicateur à collationner chez elles après le sermon ce jour-là, et qui étaient curieuses de voir leurs convives. Dans ce temps-là, si on se le rappelle, c'étaient toujours des religieux étrangers appartenant à quelque ordre lointain qui prêchaient le carême dans toutes les paroisses du royaume. Le peuple, qui donne des noms à tout, en vrai poète qu'il est, sans le savoir, appelait ces religieux errants des hirondelles de carême. Or, quand une de ces hirondelles de carême s'abattait dans quelque ville ou quelque bourgade, on lui faisait son nid dans une des meilleures maisons de l'endroit. Les familles riches et religieuses aimaient à exercer cette hospitalité. Et dans la province, où la vie est si monotone, c'était un intérêt animé pour elle que ce prédicateur de chaque année, qui apportait avec lui le charme de l'inconnu et le parfum du lointain que les âmes isolées aiment à respirer. Les plus grandes séductions, peut-être, que l'histoire des passions pouvait raconter, ont été accomplies par des voyageurs qui n'ont fait que passer et dont la seule fut la puissance. L'austère capucin, qui parlait alors de l'enfer, avec une énergie de parole qui rappelait le formidable Méridien, ne paraissait pas fait pour semer dans les âmes autre chose que la crainte de Dieu. Il ne savait pas, et les deux femmes qui voulurent le voir ne savaient pas non plus, que l'enfer qu'il prêchait, il allait le leur laisser dans le cœur. Mais ce soir-là, ces deux femmes furent trompées dans leur petite curiosité de femmes de province. Quand elles sortirent de l'église, elles n'eurent aucune observation à se communiquer sur ce terrible prédicateur d'un dogme terrible, si ce n'est sur son talent qu'elles trouvèrent grand. Elles n'avaient pas, se dirent-elles à la sortie de l'église, en s'entortillant dans leur pelisse, entendu jamais mieux prêcher une ouverture de carême. Elles étaient dévotes, pieuses comme des anges, selon la sacramentelle expression. C'était Madame et Mademoiselle de Ferjolles. Elles rentrèrent chez elles très animées. Les années précédentes, elles avaient vu et logé beaucoup de prédicateurs, des Génovais fins, des Prémontrés, des Dominicains et des Eudistes, mais de Capucins jamais. Personne de cet ordre mendiant de saint François d'Assise, dont le costume et que tu préoccupes toujours plus ou moins les femmes, est si poétique et si pittoresque. La mère, qui avait voyagé, en avait vu dans ses voyages, mais la fille, qui n'avait que 16 ans, ne connaissait de Capucin que celui qui faisait baromètre au coin de la cheminée de la salle à manger de sa mère. Ce vieux système de baromètre d'une bonhomie si charmante et qui, comme tant de choses charmantes, marquée du caractère d'un autre temps, n'existe plus. Mais celui qui se fit annoncer et qui entra dans la salle à manger où les dames de Ferjol l'attendaient pour souper ne ressemblait nullement au capucin de baromètre qui s'encapuchonnait à la pluie et se désencapuchonnait au beau temps. C'était un autre type que la joyeuse civette inventée par la moqueuse imagination de nos pères. Dans cette gauloise France, même en des jours de foi, on a beaucoup ri du moine et du capucin, mais surtout du capucin. Plus tard, à une époque moins fervente, cet aimable et mauvais sujet de régent, qui se riait de tout, ne demandait-il pas à un capucin qui le disait indigne « Et de quoi, diable, es-tu digne si tu n'es pas digne d'être capucin ?» Le XVIIIe siècle, qui méprisait l'histoire comme Mirabeau, et à qui l'histoire le rendra bien, comme à Mirabeau, avait oublié que Sixte Quint, le sublime porcher de Montalto, avait été capucin, et toute sa vie de siècle, il chansonna les capucins et les cribla d'épigrammes. Mais celui qui ce soir-là parut devant ces dames de Ferjol n'aurait prêté ni à la moindre épigramme ni au moindre couplet de chanson. Il était de grande et imposante tournure, et puisque le monde aime l'orgueil, son regard, qui ne demandait pas qu'on l'excusât d'être capucin, n'avait rien de l'humilité volontaire de son ordre. Son geste non plus, il devait avoir l'air de commander l'aumône en tendant la main. Et quelle main, d'un galbe superbe, sortant de sa grande manche, avec un éclat de blancheur qui sautait aux yeux étonnés, de cette main royale de beauté étendue si impérieusement à l'aumône. C'était un homme du milieu de la vie, robuste, à barbe courte, frisée comme celle de l'Hercule antique, et d'une couleur foncée de bronze. On eût dit Sixte Quint, obscur à 30 ans. Agathe Touzard, la vieille servante des dames de Ferjol, venait, selon l'usage respectueux des maisons pieuses, de lui donner à laver ses pieds dans le corridor, et ses pieds, qui sortaient de l'eau, luisaient dans ses sandales comme des pieds de marbre ou d'ivoire, sculptés par Phidias. Il salua, très noblement, ces dames à l'orientale, des bras croisés sur sa poitrine, et pour personne, même pour Voltaire, il aurait mérité ce nom méprisant de frocard qu'on donnait alors aux gens de robe. Quoique les boutons rouges du cardinal ne dussent jamais étoiler son froc, il semblait fait pour les porter. Ces dames, qui ne connaissaient de lui que sa voix de prédicateur, tombant de la chair dans cette église où pleuvaient les ténèbres du soir, trouvèrent, quand elles le virent, que sa personne faisait bien un avec sa voix. Comme on était en carême et que cet homme de pauvreté et d'abstinence allait le représenter plus particulièrement, puisqu'il allait le prêcher, on lui offrit la collation obligée du carême, composée de haricots à l'huile, de salade de céleri et de betteraves mêlées à des anchois, à du thon et à des huîtres marinées en bord. Il y fit honneur, mais il repoussa le vin qu'on lui présenta, quoique ce fût du vin catholique, un vieux château du pape. Il parut à ces dames avoir l'esprit et la gravité de son état, sans affectation et sans papelardise. Quand il eut rabattu sur ses épaules le capuchon avec lequel il était entré, il laissa voir un coup de proconsul romain et un crâne énorme, brillant comme une glace, et cerclé d'une légère couronne, bronzée comme sa barbe et frisée comme elle. Tout ce qu'il dit à ces deux femmes qui allaient l'héberger fut d'un homme qui avait l'habitude de ces hospitalités faites par les plus hautes compagnies à ces mendiants de Jésus-Christ, qui n'étaient jamais déplacés dans quelque lieu que ce pût être, et que la religion mettait de pair avec les plus élevés de ce monde. Il ne fut cependant sympathique ni à l'une ni à l'autre de ces dames de Ferjolles. Elles estimèrent qu'il manquait de la simplicité, de la rondeur qu'elles avaient rencontrée chez notre prédicateur de carême, logé chez elles les années précédentes. Lui, il imposait et presque indisposait. Pourquoi ne se sentait pas à l'aise dans sa présence? Il était impossible de s'en rendre compte, mais il avait dans le regard hardi de cet homme, et surtout dans l'arc de sa bouche, sous la moustache de sa barbe courte, une incroyable et inquiétante audace. Il semblait un de ces hommes dont on peut dire « il était capable de tout ». Ce fut en le regardant un soir sous l'abat-jour de la lampe, après souper, quand une espèce de familiarité se fut établie entre lui et les femmes dont il était le commensal, que Madame de Ferjolles lui dit pensivement « quand on vous regarde, mon père, on est presque tenté de se demander ce que vous auriez fêté si vous n'aviez été un saint homme. » Il ne fut point choqué de cette observation, il en sourit. Mais de quel sourire ! Madame de Ferjolles n'oublia jamais ce sourire qui, quelque temps après, devait enfoncer dans son âme une si épouvantable conviction. Mais malgré ce mot plus fort qu'elle, et qui lui avait échappé, Madame de Ferjolles n'eut point, pendant les 40 jours qu'il passa chez elle, la moindre chose à reprocher à ce capucin d'une physionomie si peu en harmonie avec l'humilité de son état. Langage et tenue, tout fut en lui irréprochable. Il serait peut-être mieux à la trappe que dans un couvent, disait quelquefois Madame de Ferjolles à sa fille, quand elles étaient seules et qu'elles s'entretenaient de leur hôte et de son audacieuse physionomie. La trappe, dans l'opinion du monde, est surtout faite avec son silence et la férocité de sa règle pour les pécheurs qui ont quelques grands crimes à expier. Madame de Ferjolles avait un esprit pénétrant. Quoiqu'elle fût dans la plus haute dévotion depuis des années, sa charité de dévote n'empêchait pas sa pénétration de femme du monde de s'exercer. Spirituelle, très capable d'apprécier la grande éloquence du père Rivule, hein, au nom du Moyen-Âge, qui du reste lui allait bien, elle n'était cependant pas plus entraînée par cette éloquence que par l'homme qui en était doué. À plus forte raison, sa jeune fille, que cette dure éloquence faisait trembler. Ni le talent ni l'homme n'étaient adhérents à ces deux femmes. Et pour cette raison, elles n'allèrent point à confesse à lui, comme les autres femmes de la bourgade, qui s'en affolèrent. C'est assez la coutume dans les villes religieuses de quitter son confesseur pendant les missions qu'on y fait, de prendre le missionnaire qui passe. On se donne alors le luxe très bien porté d'un confesseur ordinaire et d'un confesseur extraordinaire. Tout le temps qu'il prêcha son carême, le confessionnal du père Riculf ne désemplit pas des femmes de la bourgade et les dames de Ferjolles furent peut-être les seules qu'on n'y vit pas. Cela étonna tout le monde. Dans l'église comme chez elle, il y avait pour les dames de Ferjolles un cercle autour de cet isolant capucin. Elle s'arrêtait à la circonférence de ce cercle, inexplicablement mystérieux. Sentait-elle l'avertissement intérieur, car nous avons tous notre démon de Socrate, qu'il allait leur devenir fatal? Chapitre 2. La baronne de Ferjolles n'était point de ce pays qu'elle n'aimait pas. Elle était née au loin. C'était une fille noble de race normande, qu'un mariage, qui avait été une folie d'inclination, avait jeté dans ce « trou de formicaleo », comme elle disait dédaigneusement, en pensant aux horizons, aux luxuriants paysages de son opulent pays. Seulement, le formicaleo, c'était l'homme qu'elle aimait, et le trou dans lequel il l'avait précipité, l'amour, pendant des années, l'avait élargi et rempli de son agrandissante lumière. Heureuse chute! Elle était tombée là parce qu'elle aimait. La baronne de Ferjol, de son nom Jacqueline Marie-Louise d'Hollande, s'était éprise du baron de Ferjol, capitaine au régiment de Provence, dans l'infanterie, dont le régiment, dans les dernières années du règne de Louis XVI, avait fait partie du camp d'observation dressé sur le mont de Rouville-la-Place, à trois pas de la rivière La Douve et de Saint-Sauveur-le-Vicomte, qui ne s'appelle plus maintenant que Saint-Sauveur-sur-Douve, comme on dit Stratford-sur-Avon. Ce petit camp, dressé là, en prévision d'une descente des Anglais sur la côte qui me cède alors le Cotentin, n'était composé que de quatre régiments d'infanterie placés sous le commandement du lieutenant-général Marquis de Lambert. Ceux-là, qui auraient pu en garder le souvenir, sont morts depuis longtemps, et l'immense bruit de la Révolution française, passant par-dessus cet infiniment petit de l'histoire, l'avait fait oublier. Mais ma grand-mère, qui avait vu ce camp et qui en avait reçu somptueusement tous les officiers chez elle, en parlait encore dans mon enfance avec l'accent qu'ont les vieilles gens quand ils parlent des choses qu'ils ont vues. Elle avait fort bien connu le baron de Ferjol, qui avait tourné la tête à mademoiselle Jacqueline d'Hollande en dansant avec elle dans les meilleures maisons de Saint-Sauveur, petite ville de noblesse et de haute bourgeoisie, où l'on dansait beaucoup alors. Il était, disait-elle, très beau, ce baron de Ferjol, dans son uniforme blanc à collet apparemment bleu céleste. Blond d'ailleurs, et les femmes prétendent que le bleu est le phare des blonds. Ma grand-mère ne s'étonnait donc pas que M. de Ferjol lui tournait la tête à mademoiselle d'Hollande. Et de fait, il la lui avait tournée, et si bien qu'un jour, elle s'était fait enlever par lui, cette fille qu'on disait si fière. Dans ce temps-là, il y avait encore des enlèvements dans le monde, avec la poésie de la chaise de poste et la dignité du danger et des coups de pistolet aux portières. À présent, les amoureux ne s'enlèvent plus. Ils s'en vont prosaïquement ensemble dans un confortable wagon de chemin de fer et ils reviennent après le petit badinage consommé, comme dit Beaumarchais, aussi bêtement qu'ils étaient partis, et quelquefois beaucoup plus. C'est ainsi que nos plates mœurs modernes ont supprimé les plus belles et les plus charmantes folies de l'amour. Après l'éclat d'un enlèvement qui fit un épouvantable scandale dans la société réglée, morale, religieuse, même un peu janséniste, et qui n'a pas du reste beaucoup changé depuis ce temps-là, les tuteurs de mademoiselle d'Hollande, laquelle était orpheline, n'hésitèrent plus. Ils consentirent à son mariage avec le baron de Ferjol, qui l'emmena dans les Cévennes, son pays natal. Malheureusement, le baron mourut jeune. Il laissa sa femme au fond de cet entonnoir de montagne qu'il avait agrandi de sa présence et de son amour, et dont les parois, se resserrant autour d'elle, jetèrent sur son cœur en deuil comme un voile noir de plus. Elle resta pourtant courageusement dans cet abîme. Elle n'essaya point de remonter la pente escarpée de ces étouffantes montagnes pour retrouver un peu de ciel sur la tête quand elle n'en aurait plus dans le cœur. Malheureuse, elle se tapit dans son gouffre comme dans la douleur de son veuvage. D'un moment, elle pensa, il est vrai, à retourner en Normandie. Mais l'idée de son enlèvement et du mépris qu'elle y retrouverait peut-être l'en empêcha. Elle ne voulut pas revenir se blesser aux vitres qu'elle avait cassées. Son âme altière avait horreur du mépris. Positive comme sa race, elle se préoccupait assez peu de la poésie des choses extérieures. Quand cette poésie lui manquait, elle n'en souffrait pas. Ce n'était point une âme rêveuse, inclinée aux nostalgies. C'était au contraire une âme robuste et raisonnable, quoique ardente. Ardente. Son mariage ne l'avait que trop prouvé, mais son ardeur était concentrée. Et lorsque, après la mort de son mari, elle fut devenue pieuse, de cette piété que les confesseurs appellent intérieure, elle tourna tout à coup au sévère. La triste bourgade où elle était internée lui paraissait aussi bonne pour y vivre que pour y mourir. Ombrée par les montagnes qui la surplombent, cette bourgade encadrait très bien sa personne. Un portrait sombre, cadre sombre. La baronne de Ferjolles, âgée d'un peu plus de 40 ans, était une grande brune maigre, dont la maigreur semblait éclairée en dessous d'un feu secret, brûlant comme sous la cendre, dans la moelle de ses os. Belle, les femmes disaient qu'elle l'avait été autrefois, mais agréable, non, ajoutait-elle avec le plaisir que leur cause d'ordinaire ses atténuations. Sa beauté, qui n'avait été désagréable, du reste aux autres femmes, que parce qu'elle avait été écrasante, elle l'avait enterrée avec l'homme qu'elle avait éperdument aimé. Et lui disparu, cette coquette pour lui seul n'y pensa jamais plus. Il avait été l'unique miroir dans lequel elle se fut admirée. Et quand elle eut perdu cet homme pour elle, l'univers, elle reporta l'ardeur de ses sentiments sur sa fille. Seulement, comme par l'effet d'une pudeur farouche qu'ont parfois ces natures ardentes, elle n'avait pas toujours montré à son mari les sentiments par trop violents et par trop turbulents qui lui inspiraient, elle ne les montra pas davantage à cet enfant qu'elle aimait encore plus parce qu'elle était la fille de son mari que parce qu'elle était la sienne, à elle plus épouse que mère, jusque dans sa maternité. Madame de Ferjolles avait, sans l'affecter, même sans le savoir, avec sa fille comme avec le monde, une espèce de majesté rigide dont la fille et le monde subissaient également l'empire. Quand on la regardait, on s'expliquait très bien cet ascendant sans sympathie. Pour qu'elle fût sympathique, il y avait en Madame de Ferjolles quelque chose de trop impérieux, de trop despotique, de trop romain, jusque dans son buste de matrone, dans la fière allure de son esprit, dans l'arcure de son profil et dans cette masse de cheveux noirs largement empâtés de blanc sur les tempes qui le rendaient plus austère et presque cruel et qui semblaient, ces impitoyables blancheurs, avoir eu des griffes pour s'accrocher et rester là obstinément sur ces résistantes épaisseurs d'ébène. Tout cela était à faire crier les âmes communes qui voudraient que tout fût commun entre eux comme elles. Mais les peintres, les poètes avaient, eux, auraient raffolé de cette hâve tête de veuve qui aurait eu rappelé tout au moins la mère de Spartacus ou de Coriolan et, bêtise amère de la destinée, la femme de cette tête énergique et désolé qui faisait l'effet d'avoir été créé pour dompter les plus fiers rebelles et commander à des héros au nom de leur père, n'avait à conduire et à diriger dans la vie qu'une pauvre fille innocente. Rien de plus innocent, en effet, et de plus fillette. L'asthénie de Ferjolles, l'asthénie, un nom des romans de ce temps-là, car tous nos noms viennent des romans chantés sur nos berceaux. L'asthénie de Ferjolles sentait à peine de l'enfance. Elle avait vécu, sans la quitter un seul jour, dans cette petite bourgade du forêt, comme une violette au pied de ces montagnes, dont les flancs d'un vert glauque ruissellent de 1000 petits filets d'eau plaintive. Elle était le muguet de cette ombre humide, car le muguet aime l'ombre. Il croit mieux dans les coins des murs de nos jardins où le soleil ne filtre jamais. L'asthénie de Ferjolles avait la blancheur de cette fleur pudique de l'obscurité et elle en avait le mystère. C'était en tout l'opposé de sa mère, par le caractère et par la physionomie. En la voyant, on s'étonnait que cette faiblesse eût pu sortir de cette force. Elle ressemblait au verdissant feuillage qui attend le chêne auquel il doit s'enlacer. Que de jeunes filles qui, dans la vie, rampent sur le sol comme des guirlandes tombées, et qui plus tard s'élancent et se tordent autour du tronc aimé, et prennent alors leur vraie beauté de liane ou de guirlande, qui ont besoin de se suspendre à un arbre humain, dont elles seront un jour la parure et l'orgueil. Blastélie de Ferjol avait une de ces figures que le monde trouve plus jolie que belle, mais il est vrai que le monde ne s'y connaît pas. De taille ronde et mince, combinaison qui fait les femmes accomplies, c'était de cheveux une blonde comme son père, l'idéal baron qui mettait parfois de la poudre rose dans les siens, une fantaisie efféminée de ce temps, et que depuis au commencement du siècle, ce n'est pas encore l'abbé de Lille, malgré sa laideur qui était atroce. L'asthénie, elle, n'y avait d'autre poudre que la cendre naturelle du plumage de la tourterelle, à la fauve mélancolie. Les yeux de cette tête cendrée, encadrée dans la blancheur mate du muguet, qui ressemble à de la porcelaine, apparaissaient grands et brillants comme de fantastiques miroirs, et leur éclat verdâtre rappelait celui de certaines glaces à reflets étranges, dû peut-être à la profondeur de leur pureté. Ses yeux de vert gris pâle, qui est la nuance de la feuille du saule, l'ami des eaux, se voilaient de longs cils d'or bruni, qui traînaient en longuement sur ses belles joues pâles, et tout en elles était de la lenteur de ses cils. La longueur de sa démarche était de la longueur de ses paupières. Je n'ai connu dans toute ma vie qu'une seule personne de ce charme alangui et jamais je ne l'oublierai. C'était une céleste boiteuse. Oh, l'asthénie ne boitait pas, mais elle avait l'air de boiter. Elle avait ce mouvement charmant des femmes qui boitent légèrement et qui impriment à leur robe, en magie, de si adorables ondulations. Elle respirait enfin dans tout son être cette faiblesse divine devant laquelle les hommes forts et généreux, et plus ils sont mâles, s'agenouilleront toujours. Elle aimait sa mère, mais elle la craignait. Elle l'aimait comme certains dévots aiment Dieu, avec tremblement. Elle ne pouvait pas avoir avec sa mère les abandons et la confiance que les mères qui débordent de tendresse inspirent à leurs enfants. L'abandon était pour elle impossible avec la sienne, avec cette femme imposante et morne, qui semblait vivre dans le silence du tombeau de son mari, refermé sur elle. Ainsi refoulée, cette rêveuse au front gros d'inexprimables rêves, et qui se penchait sous leur poids sans croire avoir besoin de le cacher, vivait dans la sombre lumière qui tombait sur elle, et ce fond de coupe dont les bords étaient des montagnes. Mais elle y vivait plus encore dans ses pensées, comme dans d'autres montagnes, et dans celles-ci comme dans les autres, il n'y avait pas de chemin en spirale par lesquels on eût pu descendre. Elle était cachée, mais pourtant, elle était ingénue. Seulement l'ingénuité chez elle, il aurait fallu la chercher au fond de son âme et l'en faire jaillir, comme on fait jaillir du fond d'une eau pure, la perle d'écume qui ne monte en bouillonnant à sa surface que quand on y plonge un vase ou la main. Personne n'avait jamais songé à plonger dans l'âme de l'asthénie. Sa mère l'adorait, mais surtout parce qu'elle ressemblait à l'homme qu'elle avait aimé avec un si grand entraînement. Elle jouissait de sa fille en silence. Elle s'en repaissait sans rien dire. Moins pieuse, moins rigide, se défiant moins d'une ardeur de sentiment qu'elle se reprochait comme trop intense et trop humaine, elle l'aurait mangée de caresses, il lui aurait entrouvert sous ses baisers ce cœur né timide et fermé comme un bouton de fleur qui ne devait peut-être jamais s'ouvrir. Madame de Ferjol était sûre du sentiment qu'elle avait pour sa fille, et cela lui suffisait. Elle pensait que son mérite devant Dieu, à elle, était de contenir le flot d'une tendresse qui ne demandait que trop à déborder. Mais en se contentant du même coup, pour le savait-elle bien, elle contenait celui de sa fille. Elle mettait la main comme un mur sur cette source de sentiments qui cherchaient leur lit dans le cœur maternel et qui, ne le trouvant pas, refluèrent. Hélas, la loi qui régit les sentiments de nos cœurs est plus cruelle que la loi qui régit les choses. Une fois écartée la main qui faisait mur et s'opposait à son jaillissement, la source repart, délivrée de l'obstacle, et recommence de plus en plus impétueusement à couler, tandis qu'il arrive toujours un moment dans nos âmes où les sentiments qu'on y a contenus s'y résorbent et ne reparaissent plus quand on voudrait les voir reparaître, de même que le sang qui, dans les cas mortels, s'épanche à l'intérieur et ne coule plus par la plaie ouverte. Et encore, le sang, on peut l'aspirer en suçant fortement la blessure, mais les sentiments gardés trop longtemps au-dedans de nous semblent s'y coaguler, et on ne les fait plus reculer, même en les aspirant par la blessure qu'on a faite. Ainsi, quoique ne fût-je jamais quitté, quoique toujours ensemble dans les menus détails de la vie, ces deux femmes, qui s'aimaient pourtant, étaient seules et leur isolement n'était qu'un isolement partagé. Madame de Ferjolles, qui était une âme forte et qui voyait toujours dans sa pensée, hallucinée par le souvenir, l'homme qu'elle avait aimé avec une ardeur qui maintenant lui semblait coupable, était moins victime de cet isolement que l'asthénie. Mais pour l'asthénie, qui n'avait point de passé, qui arrivait à la vie sensible, à l'épanouissement des facultés qui dorment encore, mais qui vont s'éveiller, cet isolement était bien plus profond que pour sa mère. Elle en souffrait vaguement, il est vrai, comme d'un malaise bien plus que comme d'une douleur, parce qu'en elle tout était encore vague. Mais cela allait se préciser. Elle en avait toujours souffert, plus ou moins depuis le berceau, jusqu'à cette heure de la vie, mais la misère de la condition humaine, c'est de s'accoutumer à tout. L'asthénie s'était accoutumée à la tristesse de son enfance solitaire, comme à la tristesse de ce pays où elle était née, et qui lui versait sur la tête sa pauvre goutte de lumière, et lui bouchait les horizons avec les parois de ses montagnes, comme elle était accoutumée à la triste solitude de la maison maternelle. Car Madame de Ferjolles, qui était riche et d'un temps où les classes qui allaient disparaître n'avaient pas cessé d'exister, voyait très peu de ce petit bourg où, de société, il n'y avait vraiment personne pour une femme comme elle. Quand elle y était arrivée avec le baron de Ferjolles, elle était dans l'ivresse d'un tel bonheur qu'elle n'en voulut pas sortir pour le monde. Elle aurait cru qu'on lui eût pris de son bonheur ou qu'on l'aurait profané si on l'avait regardé de trop près. Et quand ce bonheur fut brisé par la mort de l'homme dont elle avait été éperdue, elle ne chercha chez personne de consolation. Elle vécut seule, sans affectation de solitude ou de chagrin, polie avec les autres, mais de cette froideur souveraine qui éloigne suffisamment et doucement, sans blesser. La petite bourgade avait pris très vite son parti de cela. Madame de Ferjolles était trop au-dessus des gens de ce bourg pour qu'on puisse y froisser d'une solitude qu'on expliquait d'ailleurs par le chagrin de la mort de son mari. On croyait avec raison qu'elle ne vivait que pour sa fille, et on disait, la sachant riche, et qu'elle avait de grands biens en Normandie, « Mais le pas d'ici, et quand sa fille sera en âge d'être mariée, elle retournera dans le pays où elle a sa fortune. » Aux alentours, il n'y avait point de parti pour mademoiselle l'asthénie de Ferjolles, et on ne pouvait croire que sa mère voulût se séparer par le mariage d'une fille dont on ne s'est jamais séparé, même pour l'envoyer au couvent de la ville voisine, quand il avait fallu s'occuper de son éducation. C'était en effet Madame de Ferjolles qui avait, dans le sens le plus strict du mot, élevé l'asthénie. Elle lui avait appris tout ce qu'elle savait. Il est vrai que c'était peu de choses. Les filles nobles de ce temps-là avaient pour toute instruction de grands sentiments et de grandes manières, et elles s'en contentaient. Lorsqu'une fois elles étaient entrées dans le monde, elles y devaient tout sans avoir rien appris. À présent, on leur apprend tout, et elles ne devinent plus rien. On leur oblitère l'esprit avec toutes sortes de connaissances, et on les dispense ainsi d'avoir de la finesse, cette gloire de nos mères. Madame de Ferjolles, certaine qu'en vivant auprès d'elle, sa fille aurait toujours bien les sentiments et les manières de sa race, tourna autour sa jeune tête vers les choses de Dieu. Avec la tendresse innée de son âme, l'asthénie devint facilement pieuse. Elle chercha dans la prière l'expansion qu'elle n'avait pas avec sa mère. Mais cette expansion devant les autels ne put lui faire oublier l'autre expansion qu'elle n'avait pas. La piété en cette âme faible et tendre n'eut jamais assez de ferveur pour lui donner le bonheur qu'elle donne aux âmes véritablement religieuses. Il y avait dans cette fille, si virginale pourtant, quelque chose de plus ou de moins que ce qu'il faut pour être heureuse seulement en Dieu et par Dieu. Elle remplissait tous ses devoirs de chrétienne avec la simplicité de la foi. Elle suivait sa mère à l'église, l'accompagnait chez les pauvres que Madame de Ferjolles visitait souvent, communiait avec elle les jours de communion, mais tout cela ne mettait pas sur son front mat le rayon qui sied à la jeunesse. « Tu n'es peut-être pas assez fervente, » lui disait Madame de Ferjolles, inquiète de cette mélancolie inexplicable avec une vie si pure. Doutes et questions sévères. Ah, cette mère folle à force de sagesse eut mieux fait de prendre la tête de son enfant chargée de ce poids invisible qui n'était pas le poids de ses magnifiques cheveux cendrés et de la lui coucher sur son épaule, cet oreiller de l'épaule d'une mère si bon aux filles pour s'y dégonfler le front, les yeux et le cœur. Mais elle ne le fit point. Elle se résista à elle-même. Cet oreiller où l'on dit tout, même sans parler, manqua toujours à l'asthénie. Et l'épaule d'une amie, puisqu'elle en avait toujours vécu sans autre société que celle de sa mère, ne la remplaça pas. Pauvre isolée qui étouffait d'âme, et qui, au moment où commence cette histoire, ne mourrait pas encore de cet étouffement.